Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Hémet.
Bonjour à tous, appel sur l'actualité jusqu'à 9h, temps universel, dans 30 minutes, comme eh bien chaque vendredi, ce sera la libre antenne. RFI vous donne la parole pour réagir à l'actualité de votre choix. Revenir sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours, dans l'actualité internationale, africaine ou même française, des sujets qui font la une, mais pas seulement. En tout cas, vous lancez le débat sur RFI au 33 9 693 693 70 ou 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. Notre adresse email, je la rappelle, appel au pluriel .actu@rfi.fr. N'oubliez pas nos comptes Facebook et Twitter. Vous débattez ensemble sur les réseaux sociaux. Mais avant de lancer le débat, comme chaque jour, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Avec un premier auditeur, il s'agit de Mohamed. Bonjour Mohamed. Bon, eh bien, on n'a pas Mohamed, on va prendre peut-être Vladimir. Alors, il n'est pas en ligne, ça, c'est la loi du direct, hein, petites interférences téléphoniques. Donc, je vais me faire son porte-parole, Vladimir, qui nous parle de l'Ukraine et pour parler de paix à Minsk interrompu. En ligne avec nous, Caroline Gojar-Larsson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI à Kiev. C'est vrai qu'il y a eu un cycle de négociations pour trouver une solution au conflit dans l'est de l'Ukraine. Quel avenir pour cette région des négociations donc entre les séparatistes pro-russes qui sont dans l'est ukrainien, avec Kiev, avec également la communauté internationale. Et ce cycle a été interrompu. On a appris cette semaine que les négociations devaient reprendre mi-janvier. Voilà, la question de Vladimir, c'était déjà savoir pourquoi y a-t-il eu cette interruption des négociations.
Alors, le cycle de pourparlers de paix entre Kiev et les séparatistes pro-russes devait se tenir à Minsk en Biélorussie sur deux jours, le 24 décembre, puis le 26. Des pourparlers très attendus, puisque les négociations étaient au point mort depuis plusieurs mois. Le précédent pourparler, qui se tenait également à Minsk, remonte à début septembre. Donc, dans ce sens, c'était déjà une avancée importante. Effectivement, les négociations ont été interrompues. Elles ont bien eu lieu le 24, mais n'ont pas été reconduites le 26. Les discussions auraient été tellement difficiles que les deux parties n'ont jamais pu se mettre d'accord pour se réunir de nouveau à la date prévue. C'est un échec néanmoins relatif, puisque ce premier round a quand même permis une mesure concrète, avec un accord sur l'échange de centaines de prisonniers, 222 rebelles et 150 Ukrainiens, pour être exact. C'est l'échange de prisonniers le plus important depuis le début du conflit, il y a 8 mois. Par ailleurs, c'est vrai qu'on ne connaît toujours pas la date exacte des prochains pourparlers de Minsk. Cependant, on sait, vous disiez, que le président ukrainien Petro Poroshenko doit rencontrer son homologue russe mi-janvier à Astana, donc la capitale du Kazakhstan, dans un format dit de Normandie, en référence à la rencontre des deux chefs d'État dans le cadre des commémorations du débarquement en Normandie en juin dernier. Si tout se passe comme annoncé, le président ukrainien devrait s'asseoir à la même table que Vladimir Poutine, mais aussi que la chancelière allemande Angela Merkel et François Hollande. Il y a peut-être des avancées à attendre de cette rencontre, et qui sait, une nouvelle date, peut-être de pourparlers avec les rebelles pro-russes, pourrait être arrêtée à ce moment-là.
Et Angela Merkel, qui a eu des propos assez fermes dernièrement dans son discours de Nouvel An, la chancelière allemande qui a affirmé que l'Europe ne laisserait pas la Russie mépriser, je cite, le droit international. On devait avoir Mohamed en ligne, il est là, oui, bonjour Mohamed.
Oui, bonjour Sébastien et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Bamako au Mali et également vous avez des questions concernant cette crise ukrainienne.
En fait, la semaine dernière, le gouvernement ukrainien a voté à une écrasante majorité une loi donnant au pays un statut de non-allié en termes d'une éventuelle adhésion à l'OTAN. À ce propos, j'ai deux questions. Comment la Russie réagit-elle à cette décision ukrainienne? Et la deuxième question, quelles peuvent être les conséquences de cette décision ukrainienne aura un impact sur les négociations qui était engagé entre le gouvernement de Kiev et les séparatistes pro-russes.
Bon, la ligne est un peu mauvaise hein, ce matin. On n'a pas de chance. Je vais peut-être un petit peu répéter, Caroline Gojar-Larson. Effectivement, le Parlement ukrainien a voté l'abolition de son statut de pays non aligné, hein, qui datait depuis quelques années, en vue d'une éventuelle adhésion à l'OTAN. Comment réagit la Russie voisine à l'idée que l'Ukraine puisse rejoindre l'Alliance Atlantique?
Alors, faut savoir que le statut de pays non aligné est adopté par l'Ukraine en 2010 sous la pression de la Russie, justement pour empêcher Kiev de rejoindre l'Alliance Atlantique. Donc évidemment, la Russie a réagi à la nouvelle de manière très violente, à tel point que ses responsables politiques ont déclaré que cela faisait de l'Ukraine un potentiel adversaire de la Russie. Aujourd'hui, dans certains médias russes, Moscou présente même l'OTAN comme la menace numéro un pour le pays devant le terrorisme. Et la Russie continue d'exiger de Kiev qu'elle fasse marche arrière sur ce point. Le premier ministre russe Dmitry Medvedev a par exemple déclaré que puisqu'une telle décision transformait l'Ukraine en un adversaire potentiel de la Russie, son pays se verra dans l'obligation de réagir. On ne sait pas bien en quels termes. Les Russes ne se contentent en tout cas pas de se faire menaçants. Ils se permettent également quelques railleries. Les médias gouvernementaux assurent que l'OTAN ne veut pas de l'Ukraine. Il va avoir à souffrir bien des désillusions, ce qui est possible. Pour en revenir à la résolution du conflit ukrainien, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a parlé d'une décision absolument contre-productive qui ne fera, selon lui, qu'exacerber le climat de confrontation. De son côté, Kiev répond que l'agression russe force l'Ukraine à se tourner vers le camp occidental. Ce qui est sûr, c'est que ce vote survenu au Parlement ukrainien il y a une semaine complique beaucoup les futures négociations entre Kiev et les rebelles pro-russes.
Voilà ce qu'on pouvait dire là-dessus. Merci beaucoup Mohamed qui nous appelait depuis Bamako, 339-693-693-70. Encore des questions sur l'Ukraine ce matin avec Florentin à présent. Bonjour.
Oui, bonjour Sébastien.
Vous nous appelez depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, et également vous vouliez nous parler de cette alliance possible avec l'OTAN.
Oui, ma question porte sur le même sujet, sur le renoncement au statut non aligné de l'Ukraine en vue d'une adhésion à l'OTAN. Mais moi je voudrais savoir, pourquoi certains pays membres de l'OTAN, notamment la France et l'Allemagne, sont-ils réticents à une éventuelle intégration de l'Ukraine.
Alors c'est vrai, hein, Caroline Gojar-Larson, que voir l'Ukraine se tourner vers l'OTAN, bon, ça ne plaît pas à la Russie, on l'a vu, mais ça ne plaît pas non plus forcément à tous les pays de l'Alliance Atlantique.
Oui, ce n'est pas parce que le Parlement ukrainien a voté l'abandon de son statut et on a aligné à la quasi-unanimité que l'Ukraine est tout à fait bienvenue au sein de l'Alliance, même s'il est vrai qu'à entendre les responsables politiques ukrainiens, l'Ukraine souhaite rejoindre l'OTAN de toutes ses forces. En même temps, le président ukrainien Petro Poroshenko a bien dit qu'il fallait garder à l'esprit que cela prendrait du temps. Il ne s'agit pas d'une intégration immédiate, mais la partie est loin d'être gagnée, pas seulement parce que la Russie fera tout pour empêcher que son voisin entre dans l'OTAN, mais aussi parce que la question divise profondément les pays membres. On se rappelle en 2008 que la candidature ukrainienne avait été recalée au sommet de Bucarest en raison de l'opposition de la France et de l'Allemagne, qui se montre aujourd'hui toujours réticente à cette intégration de l'Ukraine. L'Ukraine qui, selon ces pays, n'est pas en mesure de se conformer aux standards de l'Alliance, ou en tout cas, cela nécessiterait un travail énorme. D'ici là, l'administration américaine aura changé et sans doute évolué sous l'influence des Républicains ou de Hillary Clinton vers une position encore plus favorable à l'Ukraine. A l'inverse, personne ne peut savoir comment aura évolué la Russie de Vladimir Poutine.
Caroline Gojar-Larson en direct depuis Kiev, notre correspondante en Ukraine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Salut Florentin qui nous appelait depuis Abidjan. Salut également Mohamed à Bamako, Vladimir à Yaoundé. On a essayé de vous joindre. Bon voilà, les aléas du direct font que les lignes n'ont pas bien fonctionné pour l'instant. J'espère que vous avez pu entendre en tout cas les réponses de notre correspondante. 339-693-693-70, 09-693 deux fois 70. On poursuit vos questions à la rédaction, en ligne avec nous, Maki, bonjour.
Oui, bonjour Sébastien. Bon.
Vous nous appelez depuis Conakry, en Guinée. Vous avez une question concernant la Mauritanie et la condamnation à mort d'un jeune homme pour apostasie. On vous écoute.
En effet, Sébastien, en effet. Mais avant, permettez-moi de vous souhaiter mes vœux les meilleurs, ainsi qu'à la rédaction et tous les milliers d'auditeurs.
Meilleurs vœux également.
Ok, merci. Comme je le disais tantôt au standard aussi, j'aurais des questions à poser à Marie-Pierre, toutes relatives à cette annonce faite par les journaux l'an dernier, comme quoi le soir de la veille de Noël, à Mauritanie, non, le 24 décembre précisément, un jeune homme avait été condamné à la peine capitale pour apostasie. Alors Marie-Pierre, comment expliquez-vous une peine aussi lourde? Étonnamment, la dernière exécution du genre remonte il y a plus de 2 décennies. Pourquoi avoir fait écho que maintenant? Maintenant, pour terminer rapidement, puisqu'il a été dit par ses avocats, bon, qui ont fait appel à cette dernière décision, alors quelle sera donc la suite de la procédure en cours?
Alors effectivement, on parle de Marie-Pierre, c'est Marie-Pierre Rolfand, bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour Maki.
Vous êtes journaliste au service Afrique, ancienne correspondante en Mauritanie, donc vous connaissez bien toutes ces questions. Déjà, première question de Maki, pourquoi une telle peine, comment l'expliquer?
Alors une précision d'abord, ce n'est pas parce que plus aucune exécution n'a eu lieu depuis plus de 20 ans en Mauritanie que la justice ne prononce plus de peine capitale. Plusieurs procès se sont terminés ces dernières années par des condamnations à la peine de mort. Cher Mohamed Mbraitir est loin d'être le premier, mais jusqu'ici les condamnations sont à chaque fois converties automatiquement en perpétuité. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a un moratoire sur la peine de mort dans le pays en Mauritanie. Alors comment expliquer cette peine précisément? On ne sait pas ce qui a motivé le tribunal, mais il semble que cette peine soit en partie liée aux passions qu'a déchaîné cette affaire, avec comme corollaire une énorme pression sur la justice. Plusieurs associations islamistes se sont en effet portées partie civile et ont mandaté des avocats pour que Mohamed Cherhoul Mohamed, c'est aussi son nom, on l'appelle également Cher Mohamed Mraitir, pour qu'il soit condamné à mort. La première audience s'est d'ailleurs mal passée, avec une assistance très dissipée qui réclamait haut et fort la mise à mort du jeune Mauritanien, à tel point d'ailleurs que l'audience a dû être suspendue. L'affaire, on le sait, a aussi provoqué des manifestations. Il y a eu également des fortes pressions sur un des avocats qui avait été constitué par la famille. Il a d'ailleurs jeté l'éponge face aux menaces sur sa personne et sur sa famille. Et l'accusé n'a eu finalement que des avocats commis d'office. Enfin, tout ça pour vous dire, Maki, que c'est une affaire délicate car elle touche à la religion dans une république islamique où certains groupes ont tendance à se radicaliser. Et ce contexte de menaces, de pression a pesé sur la justice. C'est vraiment une évidence pour les avocats qui suivent l'affaire.
Ouais. Une affaire délicate. Même le président Ould Abdelaziz s'est exprimé sur la question et il se présente un petit peu en garant des valeurs islamiques. Le 10 janvier, donc juste après l'arrestation de ce jeune homme, il a dit, je cite, qu'il prendrait toutes les mesures pour défendre l'islam et le prophète, qu'il mettait l'islam au-dessus de tout, de la démocratie et même de la liberté, Marie-Pierre.
Oui, des propos mais qui ont rajouté là aussi encore une pression sur la justice et la repentance d'ailleurs de l'accusé avant son procès, pendant son procès, n'a manifestement pas été prise en compte alors qu'elle aurait dû atténuer sa peine. Et c'est ce que regrettent d'ailleurs les avocats qui suivent ce dossier. Il n'aurait dû être condamné qu'à quelques mois ou à quelques années de prison, disent-ils, mais pas à la peine de mort. En condamnant à mort finalement ce jeune homme mauritanien, la justice a voulu peut-être faire taire les plus bruyants des extrémistes. Mais le risque, c'est qu'elle ait aussi conforté certains dans leur position. Et ce qui inquiète les ONG de défense des droits de l'homme aujourd'hui, c'est maintenant la suite, car ces groupes qui ont fait pression pour que Cher Mohamed Mraitir soit condamné à mort sont ceux aussi qui réclament toujours plus la fin du moratoire sur la peine de mort dans le pays.
Alors Maki avait posé une seconde question qui était la suite, quid du reste de la procédure, qu'est-ce qui va se passer?
Alors les avocats ont fait appel, Maki l'a dit, il va donc y avoir un nouveau procès dans les prochaines semaines probablement. L'accusé sera certainement à nouveau interrogé, il est probable qu'il se repentisse à nouveau comme lors de la première audience, ce qui en théorie, on l'a dit, devrait atténuer sa peine, mais de l'avis de plusieurs avocats, il est probable aussi que le juge d'appel confirme la peine. Et si cette condamnation à la peine de mort est confirmée en appel, l'accusé pourra ensuite encore se pourvoir en cassation, mais ce sera la dernière carte qu'il pourra jouer, à moins d'être un jour gracié par le chef de l'État.
Merci beaucoup Marie-Pierre Rolfand d'être venue en direct répondre à ces questions. Marie-Pierre Rolfand du service Afrique de RFI, ancienne correspondante en Mauritanie. On salue Maki qui nous appelait depuis Conakry en Guinée. 33 9 693 693 70 09 693 2 fois 70. On repart au standard avec une nouvelle question à la rédaction avec en ligne avec nous Somaïla. Bonjour.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Soumaïla,
bonne année 2015.
Et bonne année également. Vous êtes à Tunis, en Tunisie. Vous avez une question sur les biens de l'ancien régime Ben Ali qui était en Suisse, au sujet de la restitution de cet argent. On vous écoute.
Effectivement, au mois d'avril dernier, la justice suisse s'était engagée à restituer à la Tunisie les avoirs de l'ancien régime. Sauf revirement de situation, elle est revenue sur sa décision. Je voudrais savoir pourquoi la justice suisse s'est-elle rétractée Et deuxième question, existe-t-il d'autres mécanismes pour la Tunisie de rentrer en possession de ses avoirs?
Alors effectivement, plusieurs questions là ce matin. Avec nous en direct, David Thompson, bonjour.
Bonjour.
Du service Afrique de RFI, ancien correspondant en Tunisie. Petit rappel, effectivement, Soumaïla l'a dit, au pénal, en avril, la justice avait ordonné le déblocage de l'argent. On parle de 40 millions de dollars, je pars sous votre contrôle, David. Ils appartiendraient à Belhassen Trabelsi, hein, qui est le beau-frère de Zine El Abidine Ben Ali, l'ancien chef d'État tunisien. Procédure engagée depuis 2011. Au pénal, en avril, donc, la justice avait ordonné le déblocage de cet argent. Puis là, voilà, il y a quelques jours, c'était le 9 décembre, mais on l'a appris que le 26, le tribunal pénal fédéral, c'est la plus haute juridiction helvétique, a cassé cette décision. L'argent reste donc bloqué. Pourquoi la justice suisse est revenue sur cette décision ?
D'abord, peut-être un petit mot sur Belhassen Trabelsi. Belhassen Trabelsi, aux yeux des Tunisiens, c'est vraiment le personnage de l'ancien régime qui personnifie le plus cette corruption du régime Ben Ali qui a poussé à la révolution. Sous Ben Ali, rien ne se passait sur le plan économique sans l'accord de Belhassen Trabelsi. C'est quelqu'un qui s'était accaparé, grâce à ses liens familiaux, des centaines de sociétés, notamment la plus grande d'entre elles, c'était une compagnie aérienne, Cartago, qui était en partie financée par Tunisair. Les avions de la compagnie de Belhassen Trabelsi circulaient avec du kérosène qui était payé par Tunisair, parfois même des avions. Et puis, c'était quelqu'un qui était connu pour s'être approprié un certain nombre de terrains sur lesquels il construisait des hôtels, des maisons, des terrains qui ne lui appartenaient pas. C'est vraiment l'une des personnes les plus détestées par les Tunisiens de l'ancien régime, frère de Leïla Trabelsi, ex-première dame. Et effectivement, il avait placé une partie de son argent en Suisse, qui était caché. Au lendemain de la révolution, il est parti s'exiler au Canada, où il est toujours, la Tunisie a demandé en retour que cet argent lui soit restitué. Les avocats de Belhassen Trabelsi ont effectué des requêtes, ce qui se passe aux yeux de la justice fédérale suisse, c'est qu'il est impossible aujourd'hui de prouver l'origine frauduleuse de ces revenus, parce que Belhassen Trabelsi était bel et bien président, directeur de ces sociétés. Sous Ben Ali, c'était une forme de légalité, faut voir les avocats de Belhassen Trabelsi, même si on était à l'époque sous Ben Ali. Aujourd'hui, pour la justice suisse, impossible de prouver juridiquement l'origine frauduleuse de cet argent, et donc le 9 décembre, le tribunal fédéral a annulé la restitution de cette somme de 40 millions grosso modo à la Tunisie, 40 millions d'euros.
Voilà, en fait, ce principe s'appelle le renversement de la charge de la preuve. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est-à-dire que c'est pas à la Suisse finalement de prouver que l'argent a été acquis illégalement, c'est au camp Trabelsi de prouver qu'il a une origine légale. Néanmoins, le tribunal pénal fédéral reproche au ministère public suisse lui-même de ne pas avoir examiné les preuves des avocats de Belhassen Trabelsi, de simplement pas avoir fait son boulot à fond, quoi.
Et lorsque vous posez la question du pourquoi de cette situation aux ONG en Tunisie qui suivent ces affaires-là, en particulier iWatch, ONG spécialisée dans la lutte contre la corruption, ce que cette ONG pointe du doigt, c'est d'abord le manque de volonté politique de la Tunisie, le manque de volonté diplomatique pour demander à la Suisse et à d'autres pays la restitution de ces biens qui ont été identifiés comme provenant de l'entourage de Ben Ali.
Justement, sur la deuxième question, quels peuvent être les recours? Parce que là, le tribunal pénal fédéral, c'est la plus haute juridiction, il n'y a pas d'appel possible. Qu'est-ce qui reste comme procédure?
La question, hein, répond encore une fois l'ONG iWatch, c'est est-ce qu'il y aura une volonté pour qu'il y ait des recours. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est dans un changement de régime en Tunisie. Le parti qui vient de remporter les élections, c'est le parti Nida Tounes. On sait que le parti Nida Tounes est proche de l'ancien régime. La plupart des députés de Nida Tounes sont, en tout cas une bonne moitié d'entre eux, sont des anciens du RCD, le parti de Ben Ali. Donc, selon iWatch, il est plutôt envisageable que cette nouvelle majorité cherche l'apaisement avec les cadres de l'ancien régime plutôt qu'autre chose. Et puis, il y a une commission de restitution, de récupération des biens qui a été créée au lendemain de la Révolution. Son mandat arrive cette année à terme et rien n'est prévu pour la remplacer.
Merci beaucoup David Thompson du service Afrique de RFI. On salue Soumaïla qui nous appelait depuis Tunis. Restez avec nous, on marque une pause, le journal et ensuite la libre antenne. À tout de suite.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie. Transfert d'argent et paiement de factures.